Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à la légende arthurienne. Je suis toujours en compagnie de Sylvain Ferrieux. Bonjour Sylvain.
Bonjour Émilie et bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous retrouvons aujourd'hui comme promis pour dérouler avec vous donc le fil de cette histoire arthurienne. Lors de la dernière émission, vous aviez évoqué la première partie de l'histoire avec en fait même pas l'enfance d'Arthur, l'histoire avant celle de Merlin, celle de Vortigern, etc. On va s'intéresser maintenant, bien sûr, à Arthur et surtout à comment est-ce qu'il est devenu le roi qu'on connaît aujourd'hui.
Je crois que l'histoire est bien connue. Bon, on a l'idée générale qu'une pierre s'est présentée un jour. Enfin, une pierre s'est présentée, ça fait déjà curieux de dire ça comme ça. Mais effectivement, qu'on a retrouvé une pierre. Enfin, une pierre avec ce qu'on appelait un perron, d'ailleurs, en l'occurrence. C'était pas forcément une pierre brute, mais bon, c'était quelque chose qui contenait... Alors, dans certaines versions, une enclume qui, elle-même, contenait une épée. Et donc, il fallait retirer l'épée de l'enclume et de la pierre, enfin, par l'intermédiaire de l'enclume, peu importe. Mais aucun de des personnages principaux ou des grands du royaume ne parvenait à le faire. Alors... Quand on regarde dans certaines sources plus récentes, l'origine de cette pierre n'est pas forcément développée. Quand on regarde plutôt les sources, comme je pense à Robert de Boron particulièrement, cette pierre apparaît étonnamment au moment des grands tournois du royaume, principalement, je crois que la première fois c'est à Noël, oui, que ça apparaît, il y a un tournoi à Noël pour désigner un petit peu les plus grands chevaliers de cette époque-là, éventuellement pour déterminer qui aurait une prétention à succéder à Uther, qui n'a pas eu d'enfant héritier mâle. Personne ne parvient véritablement à se distinguer dans ces tournois. Enfin, bon, de façon générale, les chevaliers se valent, les barons ne reconnaissent pas l'autorité forcément de ceux qui les ont vaincus, donc l'affaire en reste là. Jusqu'au moment où un seigneur de petite extraction, qui s'appelle Antor, arrive avec ses deux enfants. L'un est vraiment son enfant, bien que, à cause du deuxième, il ait été obligé, et ça a son importance, il ait été obligé de le confier à une nourrice, qui apparemment avait du lait qui n'était pas du meilleur, de la meilleure qualité. Ce qui va causer chez cet enfant-là une sorte de caractère un petit peu particulier. On disait qu'il avait bu un petit peu, qu'il avait été mal allaité, et donc que ça l'avait rendu un peu grognon. Ce premier enfant, c'est Kay, ou que, ça dépend comment on dit, mais c'est celui qui viendra plus tard, le sénéchal du deuxième, qui s'appelle Arthur, Antor a recueilli quand il était jeune, parce qu'un étrange ermite, dont on sait très bien qui il était en réalité, était venu lui remettre en se disant « bon, bah, tu t'en occupes, parce que sinon... » Parce que de toute façon, c'est ton travail, et puis c'est tout. Antor avait bien compris de quoi il retournait, donc finalement, il n'avait pas fait de difficulté à recueillir cet enfant, et à le nourrir d'ailleurs avec le lait de sa femme, qui était une femme noble, donc en lui donnant un caractère noble, effectivement. Alors ce personnage-là, qui est quand même que l'écuyer du premier, qui est déjà chevalier, mais pas Arthur. Donc Arthur essaie de réparer les bêtises de son frère la plupart du temps, ou bien éventuellement de pallier les erreurs que son frère a pu commettre. Et en l'occurrence, ce jour-là, à qui la faute on n'est pas sûr, quelqu'un a oublié ses armes. Donc Arthur doit aller les retrouver, et il a un petit peu de mal d'ailleurs, et sur le chemin tout à coup, il voit cette pierre dans cette enclume, dans ce perron. Il se dit, bah, plutôt que d'aller essayer de retourner au camp, ou éventuellement, je ne suis pas sûr de retrouver les armes, parce que je ne suis même pas sûr de les avoir emportées, finalement, je vais prendre cette épée-là, et puis ça fera bien l'affaire. Bon, il la prend, il s'en va, il revient. Il la donne à son frère. Et là, la question se pose, effectivement, au moment où tout à coup tout le monde s'ébahit de dire, mais attendez, quelqu'un a retiré l'épée de la pierre. Oh bah, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès, mais je pensais pas que c'était grave. Non, mais comment c'est possible, surtout? C'est surtout ça la question, du coup. Et, enfin, c'est pas d'ailleurs Arthur qui le dit au départ, qu'ayant l'épée à la main, il est même tenté de dire, bah, c'est moi qui ai... Finalement, il se ravise, parce qu'il y a quand même une certaine honnêteté chez ce bonhomme-là, qui n'est pas un mauvais personnage, il est juste un peu teigneux. Et, il accepte, enfin, il reconnaît que c'est son frère qui lui a fourni l'épée, et son frère a pu prendre l'épée sans difficulté. Alors du coup, il y a tout un cérémoniel qui s'organise, parce qu'on va attendre le prochain tournoi, et on va faire venir tous les grands du royaume pour constater qu'Arthur est capable de retirer l'épée de la pierre, parce qu'on va demander à Arthur de remettre l'épée dans la pierre.
Il y a une petite mise en scène.
Oui, il y a une mise en scène, il le fait pas comme ça tout à coup, en plein milieu d'un champ de bataille ou quoi que ce soit, non, c'est très organisé, c'est très cérémoniel. Et en fait, il est obligé de remettre l'épée dans la pierre, et lui peut la retirer à volonté, et on demande à d'autres personnes de le faire, et personne n'y arrive à part lui. Ce qui prouve bien que c'était pas juste une question de dire que la pierre était coincée. C'était pas, enfin, il avait coincé l'épée, non, non. Il n'y a que lui qui arrive à la retirer, quoi qu'il arrive. Mais on attend la Pentecôte suivante, effectivement, pour mettre en place un nouveau tournoi, et dans ce nouveau tournoi, il va refaire la même chose. Ce qui n'empêche pas les gens de considérer qu'il y a une certaine supercherie dans cette histoire-là, parce que celui qui retire l'épée... Là, la légende a couru, hein, celui qui retire l'épée est roi. Cette épée... Bon, selon les sources, hein, autant en parler quand même, c'est un personnage.
C'est ce que j'allais dire, c'est un personnage à part entière.
Alors, selon les sources, on a deux épées. Hein. On sait qu'Arthur, à un moment, brise Excalibur et s'en fait remettre une autre par l'intermédiaire de la Dame du Lac, qui n'est pas forcément Viviane, entre parenthèses. Hein. C'est aussi deux personnages qui peuvent être distincts. Donc, c'est encore une autre question. Ça dépend toujours un peu des sources. En général, on reconnaît surtout, malgré le fait qu'il puisse y avoir deux épées, que l'épée d'Arthur, c'est Excalibur. Cette épée... a une origine qui est très mal établie. Bon, Merlin l'a récupéré auprès de la Dame du Lac. La Dame du Lac l'avait. On ne sait pas trop comment. On ne pense pas que Uther les brandit au départ, même si dans certaines sources il a pu le faire. Donc ça reste un petit peu compliqué. Et je pense que la meilleure explication, c'est sans doute celle qui est donnée dans le film Excalibur une nouvelle fois. Elle fut forgée quand le monde était jeune, que l'oiseau, l'homme et la fleur ne faisaient qu'un. Ça, c'est quand même une très bonne tournure.
C'est très très bien.
Ça résume tout finalement. C'était PC. Le dragon, ce dragon, c'est la celtique.
Voilà,
la
j'allais dire, on revient quand même aux sources celtes du mythe avec cette épée, parce que c'est aussi un attribut des dieux celtes.
Voilà, une fois de plus, les quatre armes légendaires des Celtes, l'épée, la lance, le chaudron, notamment, en font partie. Donc, ce sont effectivement des armes qu'on retrouvera toujours dans la mythologie celtique. La lance, on la retrouve plus tard, on la retrouve dans la quête du Graal, et puis finalement, le Graal aussi, on le retrouve. Ce sont des origines celtiques qu'on retrouve systématiquement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Vous évoquiez à l'instant Excalibur, donc le film de Borman. Puisqu'on est dans la culture populaire, il faut peut-être aussi parler du dessin animé Merlin de Disney, des studios Disney,
oui,
qui reprend en partie, en tout cas, l'histoire que vous venez de nous raconter.
C'est vrai, il se situe aux origines un peu du roi et retrouve un peu son enfance.
Et l'épisode d'Excalibur qui est presque raconté exactement comme vous voulez de le faire.
Ah, mais c'est parce qu'il est assez fidèle à l'histoire. On a chez Disney, on a quelques petites trahisons parfois aux légendes originales, comme la petite sirène qui ne meurt pas à la fin, tout ça, parce qu'elle meurt, mais elle a une âme, donc finalement c'est pas si grave. Bon, c'est les petites notions comme ça qui changent un peu, mais finalement, bon, il a quand même une certaine... fidélité au sens originel et à la signification des récits, donc... On ne va pas les mettre de côté comme ça, les Disney.
Alors, ce qui est intéressant quand même, d'ailleurs, c'est que le film de Disney s'appelle Merlin l'Enchanteur, et pas Arthur. Et justement, on va revenir un petit peu à cette figure d'Arthur. On a l'impression que... Alors, c'est un roi légendaire qui a unifié, donc, dans la légende, son pays. Mais finalement, c'est un roi qui est bizarrement discret dans l'histoire.
Oui, il a deux grandes périodes d'activité, le roi Arthur, finalement. Il a le début, et le début correspond au phénomène historique, c'est-à-dire que dès les premières sources de Gildas et de Bède, on sait qu'il y a eu 12 batailles, que ces 12 batailles ont été menées par les Celtes pour chasser les Saxons, que les Saxons ont été chassés, mais et que finalement, ces 12 batailles ayant établi le royaume celte, on n'a pas d'informations supplémentaires sur ce qui s'est passé ensuite. Alors on brode, mais on brode finalement sur pas grand-chose, donc on sait que le roi Arthur va avoir une grande période d'activité au moment où finalement il y a tout le travail de mise en place à faire. Et là, il chasse les Saxons, il unifie le royaume, parce que les premiers adversaires qu'il affronte, ce ne sont pas les Saxons, ce sont tous ceux qui refusent de le reconnaître, même après avoir retiré l'épée. Parce que pour certains, c'est un usurpateur. Il y a 12 barons, et 12 rois même, hein, dans certains cas, qui se retournent contre lui. Qui sont essentiellement, selon les recherches que j'ai pu faire, essentiellement situés un peu dans le nord et dans un peu en Pays de Galles. On a le Sorgal, le Norgal aussi qui sont des... Donc il y a plusieurs zones géographiques qui s'opposent au roi Arthur de façon assez claire. C'est pas sans rappeler un petit peu d'ailleurs, pratiquement, enfin, même si c'est une source totalement différente qui n'a rien à voir, ça rappelle un peu le nord contre le sud dans d'autres séries plus récentes comme Game of Thrones, ça me rappelle un peu ça. Mais bien que l'origine soit totalement différente puisque c'est la guerre de Deux Roses, mais peu importe. Ben, dans cette histoire-là, on retrouve un peu ces éléments. Et donc on a cette révolte des barons qui vont finalement être... ramenés à la raison les uns après les autres, sauf le roi d'Irlande, qui lui était manifestement toujours opposé à Arthur, même si Arthur va obtenir la paix, mais le roi d'Irlande était réputé pour être plutôt un pillard et une brute à l'époque. Donc finalement, c'est pas une grande perte. Et tous les autres barons, les uns après les autres, Urien le dernier d'ailleurs, qui est un personnage qui sera le père divin, qui est un personnage très intéressant et souvent très secondaire, qui est un petit peu plus mis en valeur dans l'Excalibur de John Borman d'ailleurs, mais c'est un personnage intéressant, et lui sera le dernier à reconnaître Arthur. tout en sachant que les autres finalement se rallient à sa cause petit à petit. Parce que pour cette raison, pour la raison que finalement ils le reconnaissent véritablement, et pour la raison que les Saxons, eux, s'arment de leur côté, ils se disent que tant que les Celtes sont divisés, on peut reprendre quelques avantages au niveau de la conquête territoriale. Et donc, une fois que les Celtes se seront réorganisés, par contre, assez rapidement, les Saxons vont être balayés. Et là, on a la bataille du Mont Badon, d'ailleurs, et là, on a la mise en place du roi Arthur. Et une fois que c'est fait, on a la deuxième période, qui est une période importante, enfin, deuxième phase de cette période-là, plus précisément. C'est le mariage du roi Arthur, c'est là qu'il se fait remettre la table ronde, et c'est là que Merlin lui explique que l'objectif de la chevalerie, c'est effectivement de réformer les mauvaises coutumes, de défendre les opprimés, enfin, de donner tout l'idéal chevaleresque, qui est un idéal juridique, une fois de plus, qui est souvent mal vu, on l'a dit, et qui va prédominer sur... Dans l'ensemble du règne du roi Arthur, pour laisser la voie plus tard à la fameuse quête du Graal, qui n'est pas encore d'actualité, mais dont Merlin a parfaitement conscience, et il le dit clairement au départ, que la vocation de la chevalerie n'est pas uniquement matérielle, et qu'elle deviendra spirituelle en son temps. Donc on a un peu le temps de mettre ça en place, mais entre-temps, justement, au moment de la quête du Graal, où Arthur n'est pas très vivace, hein, faut le dire, on a finalement une période que les historiens et les chroniqueurs de l'époque n'ont pas vraiment développée, et une période qui finalement laisse la place aux chevaliers. Et c'est là que les chevaliers prennent le pas sur le roi Arthur. On ne retrouvera le roi Arthur dans cette deuxième grande période d'activité qu'à la fin de son règne, au moment où finalement tout doit s'écrouler, parce que Arthur, quand il était jeune, avait tendance à avoir les mêmes tendances que son papa, c'est-à-dire à aimer les femmes mariées, et il va accoucher avec la femme de Lot d'Orcanie, qui se trouve être, à l'époque il n'en est pas conscient lui, parce qu'il ne sait pas qui il est, qui se trouve être sa demi-sœur. Ce n'est pas Morgane, contrairement à l'idée reçue, c'est une autre des sœurs d'Arthur, enfin des filles d'Ygraine et de Gorlois, qui, duc de Tintagel, on l'a dit, qui s'appelle Morgot, selon certaines sources, Anna selon d'autres, bon, peu importe, mais dans les deux cas, elle va donner ses faveurs à son frère sans le savoir, et ce qui engendrera Mordred, qui sera officiellement le demi-frère de toute la fratrie Gauvin. Alors vous avez Gauvin, Gaerier ou Gareth, selon les versions, Guérès et Agravin. Agravin dit l'orgueilleux, qui avait un caractère relativement, lui, pas très agréable. Et le cinquième, c'est Mordred. Donc Mordred, effectivement, va profiter de la phase finale de l'histoire, le retour de la quête du Graal, où Arthur n'a pratiquement pas agi. Alors Perceval ou Galad, selon les sources, rapportent le Graal après une quête qui a duré probablement pas loin de 10 ans, pendant laquelle finalement le royaume s'est appauvri, s'est considérablement délabré, parce que les chevaliers étant emmenés par la quête du Graal et beaucoup périssant sur le chemin, on a parlé de 50 chevaliers tués littéralement pour la quête du Graal, la plupart du temps ils s'entretuaient entre eux d'ailleurs. Donc c'était une période chaotique, et finalement le royaume n'en a pas vraiment bénéficié, mais le Graal ayant été retrouvé à la fin, l'achèvement de cette quête-là montre que finalement la chevalerie a accompli son œuvre. Que reste-t-il finalement à faire au niveau matériel, puisque le spirituel l'a emporté? Ben, le royaume va tomber en déliquescence, ce qui était malheureusement une fin un peu tragique, et cette déliquescence va commencer avec le péché originel du royaume, officiellement, enfin, outre celui d'Arthur et de fait d'avoir engendré Mordred, il y a l'amour de Lancelot et de Guenièvre, qui est l'autre péché originel du royaume, qui est en fait reconnu comme étant quelque chose d'assez... d'assez classique dans la littérature médiévale, qui correspond à la courtoisie, mais qui est fortement condamnée par la deuxième vague d'écriture.
C'est ce qui est un peu paradoxal dans cette histoire de Lancelot et Guenièvre, c'est que c'est un très bel exemple d'amour courtois, mais qui justement est condamnable, en tout cas aux yeux de l'Église, d'abord.
Ah, si, la courtoisie, si on lit un peu les textes de Georges Duby notamment, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'organisé de façon presque machiavélique, avant la lettre, par les hauts seigneurs. Parce que l'idée est d'organiser des tournois dans lesquels certains chevaliers vont se distinguer et vont obtenir la reconnaissance des hautes dames du royaume. Alors, sans forcément arriver à l'adultère. Hein. La question n'est pas forcément simplement d'en arriver là. D'ailleurs, c'est pas forcément non plus ce que recherchent les chevaliers. Parce que ce qui les intéresse, en priorité, c'est cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est manifestée par un don qui est fait par la dame, ce qui peut être ce qu'on appelait une guimpe, pour une étoffe, un foulard, quelque chose. Parfois une mèche de cheveux, mais c'est moins visible. L'idée était que le chevalier pouvait la porter sur ses armes et tout de suite être reconnu comme le champion de la duchesse, de la reine, enfin voilà. Et ça permet au seigneur de dire aussi que ce chevalier lui est loyal.
Oui.
par l'intermédiaire de sa femme, qui était un peu un prix apporté à la gloire du chevalier, plus que l'argent sonnant du trébuchant. C'est l'idée de la courtoisie, c'est-à-dire que les chevaliers excellent pour séduire les femmes, et les femmes, quelque part, aguichent les chevaliers en les rabattant pour le mari, finalement, ce qui est une situation un peu curieuse. Mais chez Lancelot et Guenièvre, ça va aller un petit peu plus loin, mais étonnamment, et je tiens à le préciser, ça ne franchit pas les limites de la décence chevaleresque. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, Lancelot passe pour un traître, selon Arthur, c'est l'idée qu'il en a, sauf que Arthur a juste oublié une chose. Premièrement, précisons une chose sur Lancelot. Lancelot est le fils de Ban de Benoïc, qui était un des fidèles d'Arthur, un de ses premiers compagnons, et qui vivait en Petite-Bretagne d'ailleurs, enfin en Bretagne continentale. Et quand il est revenu en Bretagne continentale, sa terre a été conquise par le roi Clodas, qui l'a conquise par la force, sans obtenir l'intervention d'Arthur. Ce qui est quand même assez étonnant, enfin, parce que normalement, un seigneur doit venir au secours de son vassal, ce qu'Arthur a totalement oublié de faire, parce qu'il n'était pas prévenu, parce que les explications ne sont pas claires à ce sujet-là, mais toujours est-il qu'il est en manquement vassalique là-dessus, il est totalement en faute. Et plus tard, Lancelot reviendra et lui sera présenté comme le fils de la personne qu'il a abandonnée. Et Arthur, d'ailleurs, se punira lui-même, il acceptera de se donner la discipline, justement, de se fouetter lui-même, parce qu'il a péché, il a échoué, il a fait une erreur tragique. La deuxième raison, c'est que quand Lancelot est adoubé, la manière dont ça se passe, l'adoubement est une cérémonie un peu longue, avec une veille, avec un jeûne, avec donc une nuit passée en méditation, prière, et le matin, une cérémonie qui se déroule en deux phases essentiellement, la première étant le fait de se faire adoubé avec l'épée, effectivement, donc de subir aussi ce qu'on appelle la collée, qui est le dernier coup qu'un chevalier n'aura pas la possibilité de rendre, donc une bonne beigne derrière le crâne, et effectivement, la cérémonielle, au nom de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut ceindre l'épée, c'est-à-dire qu'il faut attacher la ceinture du chevalier. Mmh. Et en fait, c'est ce geste-là qui a comme caractéristique d'être essentiel et déclencheur de l'état chevaleresque. Si on ne s'est pas fait ceindre l'épée, on n'est pas encore chevalier. Alors que le jour où Lancelot est adoubé, il y a une alerte dans le royaume, le roi Arthur s'en va précipitamment après lui avoir fait le cérémoniel, mais en ayant oublié de lui ceindre l'épée. Celle qui va lui ceindre l'épée, parce qu'il ne faut pas oublier que la souveraineté n'est pas uniquement masculine et n'est pas forcément le fait uniquement des chevaliers, mais aussi des dames. C'est Guenièvre. Et donc, du coup, il ne faut pas oublier que Lancelot n'est pas le chevalier d'Arthur, mais le chevalier de Guenièvre, en fait. Ce qui fait qu'au niveau vassalique, il n'a jamais trahi personne. Et en fait. Voilà. Sauf qu'à la fin, Morgane, tiens, on revient sur un autre personnage qui est souvent secondaire, souvent mal vu. Morgane, c'est une fée. Alors, précisons ce que c'est qu'une fée. Une fée, c'est une femme qui a le pouvoir sur les hommes. Voilà, soit clair.
Tout simplement.
Tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que Fata, le destin, la fée, n'a pas d'aile, n'est pas une petite clochette qui circule en laissant des petites lumières dans l'espace. Non, pas du tout. C'est une femme qui s'adonne parfois à la magie, mais qui a aussi tout simplement un pouvoir de domination. Et ce pouvoir de domination, chez Morgane, c'est le fait qu'elle se serve de la magie. Donc elle éprouve parfois la fidélité du chevalier, elle fait quelques vilignies à droite à gauche, mais finalement, qui d'une certaine forme, du point de vue de la moralité, qui sont parfois condamnables, mais qui en fait servent essentiellement à éprouver les chevaliers, donc ne sont pas négatifs sur l'ensemble du tableau. Et elle avait emprisonné à un moment Lancelot, et Lancelot, qui s'ennuie, avait dépeint ses aventures. Il avait peint sur les murs ce qu'on appelle la chambre aux images. Il avait donc peint toute son histoire avec Guenièvre. Ce que Morgane s'est empressé de faire à la fin, c'est de montrer à Arthur les dessins de Lancelot. Et là, Arthur a bien vu que Lancelot lui avait ravi sa femme à une certaine période de sa vie. Sauf que quand Lancelot revient de la quête du Graal, il a trouvé la rédemption aussi. Il est devenu beaucoup plus chrétien. Il a décidé d'arrêter. Il va voir Guenièvre pour lui dire qu'il arrête. Et c'est là qu'Agravain, puisque j'en parlais tout à l'heure, Agravain, qui était jaloux de Lancelot depuis un certain temps, décide de le prendre sur le fait. Sauf qu'en fait, il l'a pas pris vraiment sur le fait, il l'a surtout cueilli alors qu'il faisait ses excuses à Guenièvre et ses adieux à Guenièvre. Lui qui espérait les trouver en position horizontale, les trouve à la verticale, ça lui plaît pas plus que ça, mais il essaye quand même de dire au roi, attendez, regardez, je les ai cueillis tous les deux ensemble. Lancelot ne veut pas se laisser capturer, il assomme Agravain de façon tellement radicale qu'il lui fend le crâne, et il parvient à s'échapper. Mais Guenièvre, elle est captive. Le roi Arthur fait un procès à Guenièvre, qui est un procès manifestement sans fondement, puisque vu que le fait était prescrit, il n'y avait plus d'adultère en cours, donc il veut absolument faire brûler Guenièvre. Il a l'intention d'y parvenir. Gauvin n'est pas particulièrement, je l'en parle parce que ça va avoir un lien très important par la suite, Gauvin n'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée, mais bon, il ne veut pas désobéir à son roi et son oncle, c'est son oncle aussi, il ne faut pas oublier. Agravain, lui, bon, il n'est plus là, et on a le frère de Gauvin qui s'appelle, enfin, Gaerier, Gareth, qui est un personnage assez important chez Mallory, mais qu'on voit un peu moins dans, les, dans la légende arthurienne, mais là, il a un rôle. Lui, il refuse littéralement de s'armer pour servir de contingent autour de Guenièvre pour éviter qu'elle puisse échapper ou que Lancelot intervienne. Mal lui en prend, parce que au moment où les troupes de Lancelot, qui lui aussi a une famille étendue avec Lionel, Hector, Bort, et donc un certain nombre d'autres membres de sa parentèle, intervient et donc enlève Guenièvre au moment où elle va être brûlée, et dans le tohu-bohu qui s'ensuit, Gaerette est tuée. Et là, Gauvin ne le digère pas. Et c'est là que Gauvin intervient auprès de son oncle pour obtenir la vendetta. Cette vendetta se déroulant en Petite-Bretagne, les troupes d'Arthur débarquent en Petite-Bretagne, font la guerre à Lancelot, qui est isolé dans son château avec Guenièvre, et pendant ce temps-là, Mordred a les clés du royaume, ce qu'il va utiliser, bien entendu, pour ramener les Saxons et pour en faire un royaume pire que celui que nous pouvions imaginer à l'origine. Et quand Arthur revient, il voit bien que finalement tout est perdu, sauf l'honneur, comme dirait François Ier, et finalement la dernière bataille se déroula à ce moment-là. C'est là qu'on voit un Arthur vieillissant, mais toujours vivace, réunir ses anciens barons, quelques troupes qui lui restaient. On parle d'un vieux chevalier qui s'appelait Idier, notamment, qui est un personnage qu'on retrouve. Il a son propre roman, qui est un roman assez violent d'ailleurs, mais un personnage très secondaire, mais en même temps toujours présent dans les histoires. Tous les chevaliers qui lui restent affrontent Mordred, et on sait que, à part... le dernier personnage, enfin je dis le dernier parce qu'il y a deux noms aussi pareil selon les sources, il y a deux survivants, il y en a un qui s'appelle Lucan le bouteiller, et en fait il est probablement blessé, Arthur est tellement content de le voir qu'il l'étreint à la fin du récit et il le tue. Il a dû lui briser une côte, on sait pas trop. La prise de l'ours, enfin je sais pas, mais parce que c'est, bon, Arthur après tout c'est l'ours, hein. Donc je ne sais pas, mais le deuxième qui selon les sources alors s'appelle soit Giflet ou Girflet, soit Bédiver dans la version de Mallory notamment, et le dernier qui était on disait le gonfanonier du roi, donc c'était le porte-drapeau, qui lui a survécu, et c'est à lui qu'il va demander de rendre Calibur au lac, comme dans la scène finale de Calibur d'ailleurs, c'est exactement la même histoire. Il y va une fois, il voit personne, il se dit je vais pas jeter l'épée, elle est trop précieuse. Il revient voir Arthur qui est toujours en train d'agoniser, il dit mais qu'est-ce que je viens de te dire. Bah, il retourne et il dit non, tu jettes, tu t'occupes pas. Bon, alors il jette, et là une main vient recueillir l'épée en plein milieu du lac, hop, et s'enfonce avec pour les siècles à venir, en attendant peut-être un retour. Et là, évidemment, voilà. Bédiver revient et il voit en fait Arthur qui n'est pas mort, mais qui est emporté par Morgane en île d'Avalon. Cette île d'Avalon est difficile à situer. Officiellement, certains disent que c'est Glastonbury. Ça arrange bien les Plantagenets de le dire, d'ailleurs. Oui. Mais d'autres diront que c'est une île mystérieuse cachée par des brumes. Et qu'un jour, le jour où l'Angleterre aura fait le Brexit ou autre chose, cette île se dévoilera et sauvera les Anglais, les Bretons, les Celtes, enfin, et tous ceux qui ont le cœur chevaleresque.
Et ainsi s'achève la légende.
Oui.
Alors, il nous reste très peu de temps pour cette émission, mais justement pour la terminer, est-ce qu'on peut dire que c'est un happy end ou pas ?
Malheureusement, tout ce qui, comme il est dit, alors là, je vais citer encore une fois le film, la fraternité, ce fut un bref printemps, mais si chacun y met du sien un jour, peut-être que ce printemps reviendra. On pourrait en dire la même chose de la justice est un bref printemps, et puis elle a été étouffée par le positivisme juridique, jusqu'au jour où peut-être on s'en rendra compte que la justice est plus importante que l'application stricte de la loi, ce qui est l'origine de toute notre société, et ce qui permet de garder un tissu social cohérent. Ça fait partie de beaucoup de choses. Alors la justice, elle a été, on redoutait son existence au XVIIIe siècle, parce qu'elle était le gouvernement des juges, et non garantie par un certain nombre de lois. À Rome, les lois qui garantissaient la justice n'étaient pas plus élevé qu'un nombre qui tournait autour de 50 lois. Le reste du temps, c'était des jurisconsultes et des coutumes, une fois de plus. C'est-à-dire que ce qui fonctionne doit être conservé. Alors, le message de la légende arthurienne, il est peut-être là, justement. Ce qui fonctionne doit être conservé. À partir du moment où la chevalerie étant cet idéal qui, dans l'idéal, fait ses preuves, mais en même temps qui demande un certain investissement de chacun, qui demande un certain désintéressement de chacun, parce que n'oublions pas que la chevalerie, c'est avant tout l'honneur, et non pas les richesses, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on suit ce qu'Aristote développait, l'honneur, les amitiés, les richesses. Parce que quelqu'un qui est riche n'a pas beaucoup d'amis en général sincères. Quelqu'un qui a des amis n'est pas forcément apprécier des inconnus, quelqu'un qui a de l'honneur et chez lui partout. Pourquoi? Parce que tout le monde reconnaît sa bienveillance et sa valeur morale. Ça veut dire que personne ne va penser que si jamais on retrouve ce personnage-là dans la rue agonisant, si jamais on le recueille, il ira piquer l'argenterie. C'est pas du tout comme ça qu'on voit quelqu'un qui a de l'honneur. C'est tout l'intérêt de la chevalerie. Et beaucoup d'histoires reposent sur cette notion d'honneur perdu. La plupart des romans chevaleresques, Erec et Enide, Cligès ou la fausse morte, Yvain bien entendu, et Lancelot le chevalier à la charrette, qui hésite un petit peu avant d'accepter de monter sur la charrette. Alors ça c'est une histoire, si j'ai 2 secondes j'en parle.
2 secondes alors.
2 secondes On lui propose, il est mêlé à Gand, un félon encore, à enlever Guenièvre. Lancelot veut absolument récupérer Guenièvre, évidemment, mais le chemin passe par un nain sur une charrette qui lui dit « si tu veux récupérer Guenièvre, eh bien il va falloir monter sur cette charrette ». Quand on étudie ça en littérature, en général, personne ne comprend l'origine de cette coutume. Sauf que, mettons-nous dans la situation du peuple médiéval à cette époque-là. Quand on monte sur une charrette, en général, c'est pour être exécuté. Donc un chevalier qui monte sur une charrette avec ses armoiries, en général, était un chevalier qui s'apprêtait à être déshonoré, ou qui s'apprêtait à être exécuté parce qu'il avait commis. C'était un chevalier brigand. Donc forcément, quand quelques temps plus tard, on revoit ce type-là gambadant dans la campagne, on se dit, n'oubliez pas, ce type-là, là, je l'ai vu, il était sur une charrette, c'est un chevalier brigand. Voilà la véritable raison qui explique l'histoire du chevalier à la charrette. Tout est une question, justement, d'honneur et de réputation, parce que c'est fondé sur ces éléments-là. Quand on remet les choses dans leur contexte et qu'on étudie la littérature avec les yeux du politologue, et du juriste, on se rend compte que tout est parfaitement cohérent. Et justement, cette chevalerie arthurienne nous donne un modèle cohérent. Et cette histoire-là, justement, n'est pas simplement une histoire faite pour être racontée à la veillée, mais devrait être parfois racontée dans les cours de justice.
Eh bien, c'est ce que nous allons faire justement pour les prochaines émissions. Nous allons étudier la légende arthurienne sous ce prisme de la justice. Sylvain, merci beaucoup.
Merci.